Amis, frères et sœurs, recevez ici et maintenant de la part de Dieu la grâce, la paix et la joie dans votre cœur et dans votre vie. Alors nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de ce culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le direct du site internet. Bienvenue à celles et ceux qui nous regardent sans doute, sans aucun doute même, de l'étranger. Bienvenue aussi à celles et ceux qui franchissent peut-être le seuil de ce temple pour la première fois. Et merci en particulier à notre organiste Alexandre Korovitch qui nous accompagne tout au long de ce culte. Je vous invite à la prière. Mon Dieu, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec les yeux remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, et voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Alors, je vous invite à vous réunir avec le premier chant liturgique du livret qui est inséré au début du psautier français. Il s'intitule « Bénissons Dieu, le seul Seigneur » et je vous invite à vous lever. Le Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, c'est de toi que vient toute vie. Tu es présent dans chaque créature. Tu es caché et présent comme la vie au fond de chaque être. Dieu notre Père, si tu te retires, nous périssons. Si tu retires ton esprit, nous ne sommes plus que des cymbales retentissantes et des coques vides. Si tu te retires, notre vie n'est plus qu'une somme de devoirs, et ça, ce n'est plus vivre. Mais si tu renouvelles ton amour, nous pouvons aimer à nouveau. Si tu envoies ton esprit, nous pouvons te reconnaître en tous nos frères et toutes nos sœurs. Si par le Christ tu es vivant en nous, nous sommes vivants en toi. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Je me réjouirai dans le Seigneur. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 67B. Il y a deux numéros 67. Donc nous prendrons la version B, nous chanterons les strophes 1 et 2, et ce psaume est dans le psautier français. Prenez place. Écoutons maintenant comment Dieu nous révèle son amour. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Assurés de l'amour de Dieu, reconnaissons notre péché. Prions ensemble. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais déplacer des montagnes. Mais avec la foi qui est la mienne, mon Dieu, donne-moi la force de gravir celle qui se dresse sur mon chemin. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais vider les océans. Mais avec la foi qui est la mienne, mon Dieu, donne-moi la confiance quand les eaux s'agitent. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais faire de grandes choses. Mais avec la foi qui est la mienne, mon Dieu, Donne-moi de me réjouir des grandes choses que tu fais. Je n'ai pas la foi comme un grain de moutarde. Elle est si petite, la foi qui est la mienne. Elle me rappelle chaque jour comme j'ai besoin de toi. Viens à mon aide, ô mon Dieu. Amen. Pour recevoir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Pour nous aussi, nous pouvons recevoir cette parole. Le Seigneur pose un regard favorable sur chacun, chacune de nous. Il délivre chacun, chacune de notre culpabilité. Il répare en nous ce qui est brisé. Il renouvelle en nous ce qui est fatigué. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Je vous propose de vous unir dans cette confession de foi. Je crois en un seul Dieu, notre Père, le Créateur, qui a pour chacun et pour nous tous des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, mais aussi notre frère, qui est fils de l'homme et fils de Dieu. Il vient à nous, il nous aime et il nous sauve. Je crois en l'Esprit-Saint, qui nous est laissé comme un don gratuit. Il appelle la foi et fonde l'espérance véritable. Et je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons dans la liberté et dans la joie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Prenez place. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 45, nous lirons les 15 premiers versets. Il s'agit d'une rencontre au sommet, si j'ose dire, entre Joseph et ses frères. Et il s'agit du moment où Joseph se fait reconnaître de ses frères. Joseph ne put se dominer devant tous ceux qui se tenaient près de lui. « Faites sortir tous mes gens, s'écria-t-il. Nul d'entre eux n'était présent quand il se fit reconnaître de ses frères. Il sanglota si fort que les Égyptiens l'entendirent, même la maison de Pharaon. « Je suis Joseph, dit-il à ses frères. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre tant ils tremblaient devant lui. Joseph dit à ses frères, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, votre frère, dit-il. « Moi que vous avez vendu en Égypte. Mais ne vous affligez pas maintenant. Ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu ici, car c'est Dieu qui m'y a envoyé avant vous pour vous conserver la vie. C'est en effet la seconde année que la famine sévit au cœur du pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. » Dieu m'a envoyé devant vous pour vous constituer des réserves de nourriture dans le pays, vous permettre de vivre et à beaucoup d'entre vous d'en réchapper. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a promu père de Pharaon, maître de toute sa maison et régent de tout le pays d'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui dire « Ainsi parle Joseph, ton fils. Dieu m'a promu seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans t'arrêter, tu demeureras dans le pays de Goshen et tu seras près de toi, près de moi, avec tes enfants, tes petits-enfants, ton petit, ton gros bétail et tout ce qui est à toi. » C'est là que je pourvoirai à ta subsistance pour que tu ne sois pas privé de ressources, toi, ta maison et tous les tiens. Car il y aura encore 5 années de famine. Vous le voyez de vos propres yeux et mon frère Benjamin le voit des siens, que je vous parle de ma propre bouche. Faites savoir à mon père toute l'importance que j'ai en Égypte et tout ce que vous avez pu y voir. Dépêchez-vous de faire descendre ici mon père. » Il se jeta au cou de son frère Benjamin en pleurant, et Benjamin pleura à son cou. Il embrassa tous ses frères et les couvrit de larmes. Puis ses frères s'entretinrent avec lui. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, sanctifie-nous, éclaire-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil Louange et prière, nous prendrons maintenant le cantique numéro 214. Et de ce cantique, nous chanterons les 3 strophes. Pour cela, je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Merci, ô Éternel, pour ta parole qui permet de nous approcher de toi. Elle nous apprend à te connaître. Mais comment t'approcherais-je si je ne t'approchais que par moi-même? Si je t'aborde par la rigueur, un autre me racontera ta souplesse. Si je contemple la face de ton amour, un autre reflétera celle de ton exigence. Tu es l'un, mais tu te révèles en plusieurs. Là où nous te mettons en commun, ta présence croît, Seigneur. Comment te connaîtrais-je si je ne te connaissais que par moi-même? Devant toi, partial et partiel, garde-moi de l'illusion de ma totalité. Vivre en Église, c'est vivre du bonheur d'être complété. Tu es l'immense, et notre foi est trop petite pour te percevoir tout entier. Là où nous t'attendons à plusieurs, notre accueil s'élargit, ô Éternel. Comment pourrais-je t'aimer si je ne connaissais pas le relais de mes frères et de mes sœurs sur mon chemin de foi? Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, parce que la Bible raconte l'histoire des hommes, l'histoire de notre pauvre humanité, eh bien, c'est encore une histoire de jalousie et de préférence dont je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que nous l'avons évoquée en particulier à la pause spirituelle de jeudi dernier. C'est l'histoire de Joseph, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham. Et son histoire se situe dans le livre de la Genèse, entre les chapitres 37 et 50. Alors si elle commence mal, cette histoire, eh bien, elle se termine bien par une réconciliation entre des frères dont nous venons de lire un extrait. L'histoire de Joseph, c'est un roman écrit en diaspora, comme d'autres livres du Premier Testament, tels que Daniel ou Esther. Et ces livres ont en commun le message suivant. C'est possible de vivre dans un pays d'accueil et on peut même y faire une belle carrière malgré les graves difficultés que l'on peut rencontrer en chemin. La narration de cette histoire se fonde sur une observation courante Et j'emprunte ces mots à Thomas Römer, professeur au Collège de France. Je cite, « À savoir que les fratries, les cadets d'un père âgé, sont souvent les préférés. La haine des aînés aurait dû se porter sur le père inéquitable, mais étant donné le contexte de cette époque, il est plus difficile de s'en prendre directement au père, mais plus facile de s'en prendre aux frères. » Et ici, il s'agit exclusivement de Joseph. Cela aboutit à la rupture de l'harmonie familiale, autrement dit à la rupture d'une relation de shalom, c'est-à-dire la paix, l'harmonie. Et toute l'histoire de Joseph sera la quête du rétablissement de cette relation harmonieuse, et ça va prendre du temps. Jacob, fils d'Isaac, a 12 fils qui sont à l'origine des tribus d'Israël. Sa préférence va vers Joseph parce que ce fils est né de la femme qu'il aime, Rachel, et ce, dans sa vieillesse, ainsi que Benjamin. Les 10 autres fils sont nés de Léa, la femme imposée par la tradition. Jacob donne à son fils Joseph une tunique multicolore qui attise la jalousie de ses frères. Mais voilà, Joseph a aussi un don, celui d'interpréter les songes. Et dans le Proche-Orient ancien, comme en Égypte, le songe est considéré comme une zone de rencontre entre le divin et l'humain. Joseph fait 2 songes qu'il raconte à ses frères, le songe des gerbes de blé et celui du soleil et de la lune et des 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Personne n'y comprend rien, mais les frères, jaloux de la préférence de leur père pour Joseph et jaloux de la spiritualité de Joseph, élaborent une ruse pour l'éliminer. Ils le conduisent dans le désert. Ils le jettent au fond d'une citerne. Une caravane s'arrête pour faire halte et les frères de Joseph se ravisent, remontent Joseph de la citerne et décident de le vendre comme esclave aux marchands de la caravane. Ils mentent ensuite à leur père en lui faisant croire que Joseph est mort, dévoré par une bête sauvage. Joseph est donc emmené en Égypte. Comme esclave, il travaille chez Potiphar et voilà que Joseph est grand, beau, intelligent. Et le texte biblique nous dit « L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel repose sur lui ». Et voilà que Madame Potiphar le remarque, jette son dévolu sur lui. Joseph refuse ses avances. Vexé, Madame Potiphar se venge et fait emprisonner Joseph sur de fausses accusations. Pendant son emprisonnement, Joseph interprète les songes de ses compagnons, ses prédictions se réalisent, Pharaon entend parler de Joseph et le fait libérer pour qu'il puisse interpréter un songe qu'aucun astrologue ne sait expliquer, celui des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Joseph interprète ce songe comme étant 7 années d'abondance suivies par 7 années de famine. Pendant les années d'abondance, sur l'initiative de Joseph, l'Égypte fait suffisamment de réserves pour résister ensuite aux années de famine. Et devant cette intelligence, Joseph devient ministre du Pharaon. Il épouse la fille d'un prêtre égyptien et fonde sa propre famille. La famine arrive, s'étend dans toute l'Égypte et aussi en Israël. Touché par la famine, ayant entendu qu'il y a du blé en Égypte, Jacob envoie tous ses fils, sauf Benjamin, acheter du grain. Joseph les reconnaît dans un premier temps, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Il a beaucoup changé avec l'âge et il a désormais l'allure d'un vice-roi d'Égypte. Joseph fait accuser ses 10 frères d'espionnage et emprisonne Siméon pour obliger les autres à revenir avec Benjamin, le dernier des frères. Lorsqu'ils reviennent en Égypte, Joseph est ému de revoir son petit frère. Il les fait repartir ensemble, mais fait placer une coupe dans le sac de Benjamin pour les accuser de vol. Judas se dévoue pour que Benjamin puisse rentrer auprès de leur père. Voyant que ses frères ont retenu la leçon, Joseph révèle son identité, puis se réconcilie avec eux. C'était la lecture de notre passage. Il invite donc son père et toute sa famille à venir s'installer en Égypte. Amis, frères et sœurs, même si notre histoire personnelle ne ressemble pas en tout point à celle de Joseph, néanmoins l'histoire de Joseph peut nourrir notre vie et notre foi. Tout d'abord, la Bible nous raconte qu'il nous faut faire le deuil de plusieurs choses, en tout cas deux. D'abord, le deuil des familles parfaites. Même si elle nous raconte l'histoire d'une alliance, celle de Dieu avec les hommes, cette alliance se conclut avec des personnes ordinaires, avec leurs qualités et leurs défauts. Joseph est un enfant attendu tardivement, qui devient le préféré. Il suscite des jalousies dans la fratrie. Nous pouvons connaître ce genre de situation dans nos propres familles. Le modèle de la famille de Jacob est une famille avec des enfants violents, jaloux, menteurs, pour certains, et d'autres plutôt intelligents. Et, à mon avis, un père dépassé par les événements. Eh bien, c'est une famille qui peut rappeler bon nombre de familles que sont les nôtres aujourd'hui. Et d'ailleurs, je dis, dans notre groupe, une personne a fait remarquer. Mais où sont les femmes, les mères, peut-être même les sœurs dans cette histoire? Eh bien, là aussi, deuxième deuil, il nous faut faire ce deuil de cette absence des femmes dans cette histoire. Par contre, des frères fâchés qui se réconcilient 20 ans après, cela existe. Bon, d'accord, c'est un peu rare, je suis d'accord, mais quand même. Et c'est dans ce sens-là que le passage que nous avons entendu tout à l'heure est un bijou d'écriture, car à travers toute l'histoire de Joseph, c'est une leçon de foi et de fraternité que nous recevons. Et la Bible vient nous dire qu'il n'est jamais trop tard pour une fraternité à vivre. Et surtout qu'il n'y a pas d'âge ni d'heure pour la construire ou la reconstruire. L'histoire de Joseph est une longue réflexion sur la fraternité entre les humains. Cette fraternité est au départ une relation imposée, tenant compte du fait d'avoir les mêmes parents dont il faut se partager l'amour. Mais ici, dans cette histoire, chacun souffre. Les frères souffrent de la préférence donnée à Joseph. Joseph est pris en tenaille entre l'amour du père et la haine de ses frères. Entre les chapitres 37 et 50 de cette Genèse, l'enjeu de l'histoire de Joseph est la quête du frère, des frères. Mais aussi celle de la quête dont nous parlions au début, du rétablissement de la relation harmonieuse qu'on peut qualifier de shalom. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucune intervention miraculeuse de Dieu. La relation se reconstruit petit à petit, à force de stratagèmes, par des retrouvailles répétées. Et si je vous ai fait ce résumé un petit peu long, parce que quand même, 13 chapitres en 5 minutes, bon, c'est pas évident. Remarquons qu'entre Joseph et ses frères, rien n'est oublié. Je vous ferai remarquer aussi que le mot « pardon » n'est absolument pas présent dans le texte. Et dans les chapitres précédents, tout nous montre à quel point les frères sont restés sous le poids de la culpabilité du geste qu'ils ont fait par rapport à Joseph. 20 ans se sont passés, mais ils mesurent toujours les conséquences de leur geste sur la vie de leur père. Et c'est encore plus vrai, et vous irez voir tout à l'heure peut-être, dans le tout dernier chapitre, au chapitre 50, lorsque leur père Jacob meurt, les frères doutent encore de leur réconciliation avec Joseph et se demandent si Joseph ne va pas leur faire payer ce qu'ils lui ont fait par le passé. Cela réactive leur culpabilité. Alors pour y échapper, eh bien, ils mentiront à Joseph pour désamorcer une vengeance possible. Mais Joseph restera fidèle à la réconciliation donnée au chapitre d'aujourd'hui. Lors des premières retrouvailles, les frères de Joseph ne le reconnaissent pas, ni de visage, ni par sa voix. Il manque le dernier des frères resté auprès de Jacob. Eh bien, Joseph les accuse d'être des espions et soumet ses frères à une épreuve pour tester leur fraternité. « Vous ne sortirez pas d'ici, dit-il, tant que votre plus jeune frère n'y vienne. L'un de vos frères restera en prison et vous, vous partez, vous emportez du ravitaillement pour votre famille, mais vous amenez votre petit frère. » Et c'est ce qu'ils firent, tout en se disant l'un à l'autre, « Oui, nous sommes coupables envers notre frère Joseph. Maintenant, son sang nous est réclamé. » Ainsi, la vérité progresse, puisqu'ils se reconnaissent coupables entre leur frère Joseph. Les dix frères retournent chez leur père. Dans un premier temps, Jacob refuse de lâcher Benjamin. « Mais vous me privez d'enfants, » dit-il à ses fils. La famine continue et Jacob accepte de laisser partir Benjamin. Les frères reviennent alors en Égypte avec Benjamin. Et à table, Joseph a fait placer ses frères par ordre d'âge. Lui-même mange avec eux. Les frères ne remarquent pas ces signes qui auraient pu leur ouvrir les yeux. Et Joseph met à nouveau à l'épreuve leur fraternité. Il les laisse repartir, mais glisse une coupe d'argent, la sienne, dans les affaires de Benjamin, qui se trouve faussement accusé de vol. Mais cette fois-ci, les frères se montrent solidaires. Et Judas prend la parole et il s'offre en esclave à la place de Benjamin, qui est si important pour leur père. L'amour du père pour un des frères qui, au début de l'histoire, a créé la haine est maintenant l'objet d'un sacrifice de Judas pour que le père ne souffre pas. Et Joseph est donc témoin du progrès de vérité et de fraternité chez ses frères. Il ne se cache plus pour pleurer et se fait reconnaître. Tout au long de l'histoire de Joseph, mes amis, il nous est indiqué que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Pour le judaïsme, Joseph est un patriarche de référence. Et pour l'islam, Joseph est un prophète de Dieu. Cela tient au fait que lorsqu'il se fait reconnaître de ses frères, Joseph place Dieu en premier dans tout ce qui s'est passé. Il fait passer sa confiance en Dieu en premier. Il relie du verbe relier et il relie du verbe relire toute sa vie sous le regard de Dieu. Et contre toute attente, il peut dire « Mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Nous sommes ici devant une lecture positive de l'histoire. Et Joseph est en train de dire comment il a rebondi, comment il est reparti dans sa vie, malgré les injustices dont il a été victime. Joseph a dépassé la rancune et le simple désir de se venger de ses injustices. Tout le mal qui a été fait, toute la souffrance supportée par Joseph a été changée en bien. Il le dira encore au tout dernier chapitre de cette histoire. Tout ce qui semble injuste, incompréhensible, inconcevable, insupportable au départ, prend maintenant tout son sens. « J'ai été envoyé là, dit-il, pour pouvoir vous accueillir maintenant. » Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir au départ. Son pardon et son accueil permettront à ses frères de survivre et d'avoir une descendance. Ils ne manqueront de rien. Alors, toute proportion gardée, nous pourrions dire, avec notre langage d'aujourd'hui, que Joseph est un résilient. C'est-à-dire que, c'est un peu comme ça que j'interprète les choses, il est reparti dans sa vie plus fort malgré les coups qu'il a reçus. Mais ce qui permet à Joseph de dire cela et d'être comme cela, c'est d'abord sa foi ancrée en Dieu. Rien, ni le mal, ni le bien, n'a été vécu sans Dieu. Ce Dieu d'ailleurs qui n'intervient pas de façon ostentatoire, mais qui soutient la vie de Joseph, comme d'ailleurs celle de Pharaon ou de Jacob à ce moment-là. Ce Dieu qui est plutôt le symbole d'une force intérieure et d'une fidélité. Ce texte, me semble-t-il, peut nous aider pour nos vies personnelles quand l'avenir nous semble bouché, hermétique, injuste. Nous vivons, chacun pour notre part, des épreuves, certaines terribles, dont nous ne comprenons pas le sens immédiat. Quel regard portons-nous sous nos difficultés? Les vivons-nous éloignés de Dieu ou enracinés en lui? Le texte de Joseph peut nous aider à relire ce qui se passe dans nos vies avec la conviction que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance d'une façon ou d'une autre, notre foi, ce que nous appelons ici notre foi, est là, toujours là, et qu'il nous accompagne partout, y compris sur les routes sombres et tortueuses de notre existence. Il y a un proverbe portugais qui dit « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ». C'est à mon sens toute la fidélité de Dieu à notre égard. Même, je dirais, surtout lorsque nous avons le sentiment d'être abandonnés ou laissés pour compte. Notre petite histoire personnelle s'inscrit en fait dans une histoire bien plus grande, celle de Dieu avec l'humanité. L'être humain, ce que nous appelons comme ça, l'histoire du salut. Rechercher sans cesse ce que Dieu veut pour moi, là où je suis placée. Et ne pas perdre de vue, j'ai même envie de dire ne jamais perdre de vue, que Dieu nous veut d'abord debout, heureux et libres. Alors l'histoire de Joseph, quelque part, c'est l'histoire de la grâce de Dieu. Cette grâce que nous disons première dans notre foi. Mais qu'en est-il au fond? Notre problème réside souvent dans le fait que la grâce de Dieu nous indiffère. Ou peut-être simplement que nous avons du mal à y croire. Alors je voudrais citer un extrait d'un livre écrit par le cheikh Khaled Bentounes. Dans son livre intitulé « L'homme intérieur à la lumière du Coran », je cite « Dans le parcours de Joseph, comme celui des autres prophètes, rien n'est fortuit. Jeté et abandonné dans un puits du désert, Joseph est recueilli et entre en Égypte, préparant ainsi la venue de ses frères, ancêtres des 12 tribus d'Israël. Cet événement était le prélude de la mission de Moïse et de l'exode du peuple hébreu d'Égypte. J'ouvre une parenthèse. D'ailleurs, dans les derniers versets du chapitre 50, au moment de la mort de Joseph en Égypte, enseveli en Égypte, il y a quelques mots d'anticipation de l'Exode, juste à la fin. Je cite encore, « Il s'avère ainsi que les différentes expériences qui marquent notre vie, même négatives, peuvent jouer un rôle éminemment positif. Les épreuves nous permettent de découvrir en nous une dimension jusqu'alors insoupçonnée. Il ne faut jamais désespérer et s'en remettre à lui, Dieu. Lorsque nous revenons vers lui, les situations s'organisent, trouvent un sens et deviennent claires. » Alors, le livre de la Genèse nous montrait la semaine dernière dans le texte de Caïn à Abel qu'il n'est pas fatal qu'un frère tue son frère. Avec l'histoire de Joseph et de ses frères, nous découvrons une histoire haute en couleurs, c'est une histoire d'amour qu'on nous raconte, une histoire de reconnaissance des enfants qui veulent être aimés de leur père, qui ne supportent pas qu'il y ait des préférés et des laissés pour compte, que la jalousie, expression maladive d'une souffrance ou d'un abandon, mène à des actes parfois irréparables, mais avec la foi, celle que nous avons, celle que nous recherchons, celle que nous espérons, nous apprenons qu'il n'y a pas de situation qui enferme. Il n'y a pas de voie sans issue. Il y a toujours une ouverture inattendue, et avec le temps, mais aussi avec la parole, il est possible de traverser l'épreuve, quelle qu'elle soit, en particulier celle de la discorde. Il est possible de vivre ensemble dans la bienveillance réciproque, comme des frères. Et le roman de Joseph, sans nous donner de règles à suivre, nous rappelle que la fraternité n'est pas innée, mais qu'elle se présente comme une relation à construire par chacun et chacune d'entre nous, que nous pouvons toujours y prétendre et que pour cela, il n'est jamais trop tard. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à prendre maintenant le numéro 216 de ce cantique. Nous chanterons les trois strophes et je vous invite à vous lever.
So
place. Je passe la parole à notre conseillère Juliette.
Chers frères et sœurs, bonjour. C'est le temps des annonces. En ce temps d'été, le socle du programme oratoire est maintenu. Et jeudi prochain, ici dans le temple, vous retrouverez le temps de la pause spirituelle à partir de la lecture d'un texte biblique avec Agnès, ici présente. Et puis, dimanche prochain, nouveau rendez-vous de culte à 10h30. Mais je voudrais surtout attirer votre attention sur une proposition qui vous est faite dans 15 jours, le samedi 24 juillet, puisque Bernard et Christiane Guttinger donc, nous proposent une visite d'ordre culturel et spirituel à Château-Thierry, à laquelle participera également Agnès. Pour vous inscrire, il convient d'écrire à l'adresse de l'accueil, accueil@oratoireduLouvre.fr. Vous pourrez aussi donc poser toutes vos questions. Je sais que déjà vous nous avez posé depuis ce matin. Quand vous prenez chacun vos billets de train donc de manière indépendante, soit pas en ligne, soit sur place directement à la SNCF dans les gares. Et puis pour le programme, si vous voulez davantage de détails, posez vos questions et vous retrouverez des réponses. Voilà, donc pour les annonces. Après les annonces, suit le moment de l'offrande. Eh bien, écoutez, tout ce que nous disposons, c'est le don de Dieu. Et je vous invite à goûter au don de votre part, de nouveau. Et merci pour tout. Je vous souhaite un très, très bon dimanche. Et soyez comblés. À bientôt.
Prions ensemble. Éternel, toi qui es l'amour, la liberté, la joie et la vérité, tu nous rassembles aujourd'hui pour refaire avec nous ton alliance, pour nous redire les mots de ta tendresse. Alors, regarde notre vie. Tu connais les richesses qui s'y trouvent déjà. Mais tu sais aussi nos faiblesses. Mais nous venons à toi tels que nous sommes, sans artifice. Il y a tout près de nous, comme très loin de nous, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont besoin d'attention, mais aussi de tendresse, de soutien, de notre regard. Apprends-nous toujours encore à communiquer de plein pied avec eux. Et garde-nous de la pitié qui les dévalorise contre le scandale de leurs différences, notre révolte. Accorde-nous la grâce. Si nous ne pouvons les comprendre, d'accepter ou de traverser en tout cas les épreuves qui nous dépassent. Alors nous te le demandons chacun à notre manière, continue à nous donner pour que nous puissions partager, mais aussi continue à nous pardonner pour que nous sachions être indulgents, à nous interpeller pour que nous ne nous enfermions pas en nous-mêmes. Continue à nous demander pour ne pas capitaliser et à nous bousculer pour ne pas nous relâcher. Et surtout, ô Éternel, prends patience avec nous pour que nous ne lassions pas de te servir. Fais que nous voyons les choses à faire sans oublier les personnes à aimer et que nous voyons les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. Donne-nous encore et toujours patience, force et courage de construire la fraternité là où nous sommes, en prenant soin de nos sœurs et de nos frères, en humanité comme dans la foi, tout en prenant soin de la terre et en réalisant que ces deux soins ne font qu'un en réalité. Nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen. Alors merci de laisser les cantiques à votre place et je voudrais vous souhaiter un bon dimanche, tout simplement.